La Satonais, c'est le groupe Norhoy. C'est le groupe que j'ai reçu la semaine dernière. Vous pouvez réécouter, l'émission est en ligne donc sur l'émission de Patchworld. Il y avait aussi le groupe Zekfolt. Alors pour ceux qui viennent de brancher leur radio, je vous signale aujourd'hui que dans Patchworld, il y a deux invités. Il y a Guillaume qui est déjà venu présenter les éditions. Donc ça va Guillaume ?
Oui, très bien.
Ouais, tu connais la radio, tout va bien ?
Oui.
Guillaume Defreddy qui fait les éditions Les Passionnés de Bouquins.
C'est ça.
C'est ça, je ne me suis pas trompée.
Non, tout va bien. Fait.
Et Julie Subirana, j'ai bien dit ton prénom ?
Oui, exactement, c'est ça.
Ça, j'entends pas bien, j'espère qu'on nous entend. Je vais monter le casque parce que... J'ai l'impression, voilà, ah c'est ça, voilà. J'ai l'impression qu'on ne nous entendait pas. Vous entendez bien vous dans vos casques ? Tout va bien ?
Oui, c'est parfait.
C'est parfait, voilà. Alors, Julie Subirana, je suis très contente de te recevoir parce que Guillaume m'a passé ton livre, Les enfants indigo. Alors avant même que je lise le livre, j'avais dit à Guillaume que ça m'inspirait déjà plein de choses que je connaissais, que j'avais lues sur la notion d'enfant indigo. T'es allé très loin, t'as vraiment poussé le sujet très très loin. On va pas pouvoir tout dire jusqu'à la fin, sinon on va manger un peu du suspense. Je vais essayer de tenir ma langue.
Vaut mieux. Ouais.
Mais il y a quand même, ce serait bien d'arriver à parler de tous les sujets qui sont dans ce livre, dont les plantes forcément, qui sont au cœur de ce roman thriller, on va dire une enquête. Donc comme c'est indiqué donc sur la pochette, une enquête au cœur du pouvoir des plantes. Voilà, on a une heure pour en parler. Et vraiment rester à l'écoute, c'est passionnant. Alors hier, je suis allée voir les Backroads en concert. C'était au Jack Jack à Bron. Ils viennent de sortir leur deuxième album. Donc je vous invite à aller découvrir les Backroads. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe, je vais les recevoir bientôt dans mon émission de radio. Sylvaine, la chanteuse, et qui écrit aussi les textes. Et puis donc, aller découvrir ce nouvel album. Save the Dead, vers une nouvelle citoyenneté urbaine, ou comment et avec qui agir. Des informations, inscriptions, ateliers, capacités, locomotives, 10 Biruja Django, 69, Lyon 7. C'est le mardi 16 mai de 9h à 17h30, l'université de Lyon, 92 rue Pasteur, dans le 7e, tram T1. Voilà, je vais avoir d'autres informations, c'est Julie qui m'a passé ce petit message. Save the Dead, voilà. Allez, puis je vous donnerai d'autres informations à la fin de l'émission, parce que c'est la fin du générique, on en a assez dit. Alors bonjour Julie, bonjour Guillaume.
Bonjour. Bonjour Delphine.
Merci d'être venue jusqu'ici dans les locaux de Radio Canu pour parler. Ben, déjà, peut-être on peut faire une petite présentation de l'édition pour faire un résumé des émissions précédentes.
Oui, bah c'est très rapidement, mais effectivement, les éditions Les Passionnés de Bouquins, maison d'édition qui donc publie à compte d'éditeur et qui tourne autour d'un axe éditorial rhône-alpin avec des auteurs de la région et puis des livres qui se passent principalement dans la région, avec trois collections, une collection témoignages, histoire, une collection littérature et une collection de romans policiers, donc dans laquelle s'inscrit le livre de Julie, enfin le premier livre qui était Les enfants indigo, une enquête au cœur du pouvoir des plantes, dont tu parlais juste avant.
Et donc Julie, tu as écrit ce livre quand ?
Je l'ai écrit en 2013. Voilà, c'était une période où j'ai commencé à bosser à l'école des plantes. Et je trouvais ça incroyable de rencontrer tous ces gens qui avaient plein d'idées différentes des miennes et du monde que je côtoie, le monde médical. C'était pour moi une ouverture énorme. Et j'ai rencontré aussi des gens qui avaient des pratiques avec les plantes que je trouvais un peu limites. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce thriller. C'est quand les plantes commençaient à être utilisées à des fins un peu plus malveillantes. Et voilà, ça m'a beaucoup inspirée.
Du coup, dans ton livre, forcément, la première chose qui m'a intriguée, c'est de savoir quelles sont les parts de réalité, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment inquiétant dans les recherches que tu as faites, où il y a vraiment une façon construite, tu penses qu'il y a des vrais tests comme ça de transformation génétique, par exemple, sans
avec
tout dire.
Les plantes,
ouais.
Je sais pas, après...
Les respiriens, t'en as déjà croisé ?
Oui, j'en ai déjà croisé, en fait.
D'accord.
Et c'est en particulier ça, d'avoir croisé des respiriens qui m'a donné envie d'écrire ce livre.
Est-ce qu'ils étaient verts ?
Pas vraiment, non. Mais ils étaient très maigres.
Oui, je veux bien te croire. Et vous arriviez... Du coup, ils finissaient pas aux urgences ou...
Si, si, il y en a quelques-uns qui ont fini aux urgences, justement. Mmh. Puis après, j'avais cherché, du coup, sur le site où ils décrivaient les dérives sectaires, genre Miviludes et tout ça. Et j'ai trouvé pas mal de cas dans le coin. Et puis, j'en ai rencontré quelques-uns parce que j'étais voir un documentaire qui était projeté dans les pentes, dans un petit bar, Golshan.
Oui, bien sûr.
Et ce documentaire, il s'appelle Lumière. Donc c'est sur vivre de lumière, en fait. Donc peut-être qu'on va préciser ce que c'est les respiriens pour les auditeurs qui ne savent pas. En fait, le respirianisme ou brésarianisme, c'est un concept à la base américain qui se base sur un concept indien qui dit que par la méditation, en fait, on pourrait arrêter progressivement de manger, puis de boire, et que comme les plantes, on pourrait vivre de lumière. C'est-à-dire fabriquer de l'énergie comme une espèce de photosynthèse avec le soleil, et puis voilà. Donc après, moi, je peux concevoir quelque part qu'il y ait certains sages indiens qui aient réussi par 25 ans de méditation à aller jusqu'à cet état-là d'ouverture, etc. Bien que c'est sujet à caution. Par contre, que monsieur et madame Trucmuche puissent faire un stage à 5000 euros avec la grande prêtresse du respirianisme et au bout de 2 semaines arriver à vivre de lumière, là, ça me gêne un petit peu plus aux entournures.
Donc il y a les respiriens, il y a plein de choses. Alors Claire et Marie, qui sont deux amies, on va raconter le début de l'histoire. Et ça se passe à Lyon. C'est la base aussi de ton édition, Guillaume, c'est de choisir des romans qui se passent un peu, qui décrivent un peu Lyon.
Oui, oui, tout à fait. L'un des objectifs de la maison d'édition, c'est aussi de promouvoir des auteurs locaux, régionaux, et principalement à Lyon. Et puis d'avoir un cadre qui est lyonnais, là c'est le cas pour le livre de Julie, pour Les Enfants Indigos. Alors ça se passe pas que à Lyon, il y a une partie aussi qui se passe un peu en Auvergne. Mais en effet, il y a une grande partie qui se passe dans Lyon, notamment dans les arêtes de poissons, hein, c'est les fameux souterrains qui sont sous la ville de Lyon. Et ça permet aussi de découvrir la ville dans laquelle on vit, la ville dans laquelle on est, et qui est quand même une ville chargée d'histoire, donc il y a aussi cet objectif-là, oui, c'est vrai.
Alors, une partie de l'histoire, Julie, se passe effectivement dans Lyon, avec des intrigues, des sortes de messes noires dans les souterrains lyonnais. Mmh, et c'est très documenté, puisque là aussi, il y a une part un peu de documentaire réaliste. On connaît un peu l'histoire de ces arêtes de poissons dans l'histoire de Lyon, avec plus ou moins de suppositions sur leurs dates, sur leurs utilisations.
Tout à fait, ça reste quand même quelque chose d'assez méconnu, mais depuis quelques années, donc on assiste à un regain de curiosité en fait à leur égard. Et du coup, il y a eu quelques livres qui sont publiés, en particulier un par Walid Nazim, qui s'appelle « Le mystère des arêtes de poissons ». D'ailleurs, il vient de tourner un documentaire qui est projeté de temps en temps dans les cinémas des Pentes ou de la Croix-Rousse, où il présente un peu ces arêtes de poissons, qui sont un souterrain donc, qui a été découvert dans les années 60 par des ouvriers de la ville, en fait, au cours de réparations, parce qu'il y a eu des effondrements dans certains quartiers. Et par contre, on ne sait pas exactement de quand ça date. Alors là, il y a plein d'hypothèses, toutes plus folles les unes que les autres, qui sont vraiment intéressantes. Et comme Lyon est une ville qui est très chargée au niveau mystère historique, eh ben, y a des gens qui ont fait le lien en fait, avec plusieurs choses, en particulier avec les Templiers, avec... ou d'autres choses comme ça.
Donc oui, dans ton livre, on sent aussi les influences un peu qui reviendraient à des fonctionnements qu'on avait au Moyen-Âge, par exemple, effectivement, tout le côté ésotérique ou des notions de sorcellerie avec l'utilisation de plantes, de potions magiques ou même de messes noires dans les souterrains.
Mmh, tout à fait. En fait, je trouve que les plantes, elles se prêtent bien à ce genre de choses. En fait, pour moi, les plantes sont intéressantes parce qu'elles ont... leur histoire, elle est intriquée à la nôtre depuis l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, l'homme, il utilise les plantes pour se soigner, mais aussi pour ses rituels. Et je pense que la majorité des plantes hallucinogènes qu'on connaît sont à l'origine des plus grands mythes. Par exemple, les mythes de la zombification, de l'homme-oiseau, du loup-garou, des sorcières qui volent sur leur balai. Tout ça, ça découle de l'utilisation de certaines plantes et de leurs propriétés toxiques ou hallucinogènes. Il y a même une discipline, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, qui s'appelle l'entéobotanique, qui étudie le lien en fait, entre les plantes hallucinogènes et le phénomène religieux. Par exemple, ils ont montré le lien dans... Il y a certaines communautés en Amérique du Sud où au lieu de consommer l'hostie, on consomme de l'amanite tumouche. Voilà, on sait que donc qu'il y a des propriétés hallucinogènes et qui représenterait le corps du Christ. Et il y a plein d'analogies en fait entre ces plantes, le phénomène religieux, les visions, les miracles. C'est vraiment intéressant.
Et tu veux dire qu'à petite dose, la manie de tue-mouche ne tue pas tout de suite, n'empoisonne pas
en
tout
fait,
de suite.
La manie de tue-mouche ne tue pas.
D'accord.
Donc, c'est la manie de phalloïde qui est mortelle. La manie de tue-mouche, elle contient essentiellement des composés hallucinogènes. Donc il y a de la muscarine, mais il y a aussi du mucimol, de l'acide ibotenique, eux qui ont des propriétés vraiment hallucinogènes.
Donc là, on parle des champignons.
Voilà.
Et sur les plantes, donc dans ton livre, tu parles de la datura.
Voilà, je parle de datura qui est une plante de la famille des solanacées, comme la jusquiame, la mandragore, la belladone. Souvent, les gens ils connaissent la mandragore grâce à Harry Potter. Donc la mandragore, c'est cette plante qui a une espèce de racine un peu charnue, qui ressemble à un corps humain. Et donc, il y avait toute une technique médiévale pour l'arracher. Donc on ne pouvait pas l'arracher directement, parce que sinon, elle poussait un cri vraiment déchirant et on mourait sur le coup. Donc il fallait... prendre un chien noir ou blanc de préférence, l'attacher à la plante et après l'exciter avec un bâton pour qu'il tire sur la plante. Et du coup, c'est le chien qui mourait à la place de l'homme. Voilà, donc ça, c'est une partie des plantes à sorcières. Et après, dans cette famille-là, donc, la mandragore, elle a un effet hallucinogène mais qui n'est pas très marqué, ça rend surtout malade. Et par contre, le datura, lui, il a vraiment des propriétés hallucinogènes qui sont beaucoup plus importantes. D'ailleurs, c'est utilisé à but récréatif. Il y a pas mal d'intoxications avec des gens qui déboulent aux urgences dans des états pas terribles à cause du datura. Il y a 100 ou 200 cas par an à peu près.
Du coup, quel est le thème qui a fait le déclic dans ton livre ? Tu es partie de quoi ?
En fait, de la couleur bleue, de l'indigo.
C'était ma question suivante, forcément, parce que ça, tu arrives à rejoindre aussi le lien avec Lyon, les teinturiers notamment, cette recherche
exactement.
Sur la couleur bleue.
Avec la soie.
Qui était une rareté, le bleu était une rareté, c'est pour ça qu'ils voulaient en faire une création, une version chimique.
Tout à fait, parce qu'en fait, à l'époque, donc la couleur bleue était difficile à produire, donc ça restait une couleur qui était peu portée, parce que c'était cher, mais pareil, même en peinture, on le représentait, enfin, il était cher, même en pigment pour peindre, donc on représentait que la Vierge qui était peinte en bleu, voilà. Et en fait, on utilisait le bleu qui était issu du pastel, ou des bleus qui venaient de pierres précieuses pour teindre en bleu, donc ça coûtait très cher.
Oui, lapis lazuli, je crois.
Voilà, il y avait le lapis, le bleu céruléen, enfin... d'autres trucs comme ça. Et en fait, ailleurs dans le monde, ils utilisaient plutôt l'indigo, alors que nous, il y avait eu une espèce d'accord avec les pasteliers. Comme l'indigo est plus facile à produire que le pastel, du coup, l'État avait bloqué en fait, l'import d'indigo pour que les pasteliers donc, restent riches, en fait. Voilà. Le pays de Cocagne.
Ah, comment tu es tombée sur cette thématique de l'indigo, du bleu
De l'indigo, c'est aussi partie de l'école des plantes où j'ai croisé des gens en fait, qui se disaient enfants indigo.
Ah oui.
Voilà. Donc les enfants indigo, à la base c'est un courant qui vient des États-Unis, à la base ça vient des enfants arc-en-ciel. Et les enfants indigo, c'est quelque chose qui dit qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptés au système scolaire. Ce qui est une vérité, hein, où ça se passe mal, où ils sont hyperactifs, où ils ne sont pas adaptés aux règles, assis, debout, machin, avec les horaires. Et petit à petit, en fait, c'est devenu un mouvement un petit peu sectaire, où on considérait que ces enfants, ils étaient spéciaux, ils avaient une aura de couleur indigo. Et puis petit à petit, il y en a qui ont commencé à dire qu'ils parlaient avec l'ange Kyréon, qu'ils étaient immunisés contre le sida, etc. Puis c'est parti en dérive franchement sectaire.
Voilà. J'avais aussi entendu dire que c'était aussi lié à certains comportements psychologiques. J'avais dit à Guillaume aussi, alors ça, on sort un peu du livre, mais sur l'idée un peu de... tu le suggères, puisqu'ils ne sont pas arrivés dans l'idée, c'est un peu le concept de la création de l'enfant de demain, dans un idéal, c'est des enfants qui ont des pouvoirs de médium, par exemple, parapsychologiques.
Qui sont plus éveillés que la moyenne, Donc il y a toute cette idée de l'enfant ultime.
Donc tu as rencontré vraiment des gens qui se...
Voilà, qui se disaient de ça, et d'autres qui étaient respiriens. Ça a fait une espèce de synthèse entre les deux.
Et tu les as rencontrés parce qu'ils étaient aussi dans les études, les mêmes études que toi
ou... Voilà, donc ils étaient étudiants avec moi. En fait, avant d'être prof à l'école des plantes, j'étais étudiante, j'ai fait le cursus d'herbaliste, en fait, qui est herboriste, en fait. Voilà, où on rencontre des gens très intéressants qui viennent de milieux hyper divers et qui ont tous en commun la passion pour les plantes. Donc il y en a qui sont guides de moyenne montagne, il y en a qui sont naturopathes, il y en a qui viennent de divers horizons. Et leur but, c'est de mieux connaître la nature, d'arriver à se soigner, mais aussi d'acquérir toute cette connaissance autour des plantes et de leurs utilisations un peu plus différentes, pas que pour le soin en fait. mais aussi tout ce qui est mode de vie, tissage.
Alors le datura, apparemment, c'est quelque chose qui est bleu, qui fait une couleur bleue.
Non, ça ne fait pas de couleur bleue.
Alors vas-y, explique-nous la datura, comment, à quoi ça correspond.
Le datura, donc, c'est une plante, c'est une solanacée qui a des... Mm-hmm. Donc c'est une plante, la famille des solanacées, c'est celle où il y a l'aubergine, la tomate et tout ça.
D'accord.
Et le datura, il est cultivé beaucoup dans la région parce qu'il est ornemental. Ça fait des très belles fleurs blanches pendantes qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, il y en a qui poussent un peu partout dans Lyon. Ça m'arrive régulièrement d'en voir au coin de rue des buissons énormes. Et je me dis, voilà, mais si les gens savaient qu'ils ont ce truc hallucinogène juste à côté.
Mais on va savoir grâce à Patchworld. Merci Julie.
Je ne sais pas si c'était une bonne idée.
Ah bah là, maintenant, hein. Si t'en as fait un livre.
Voilà. Il y a des gens qui utilisaient la plante pour se soigner, pour les crises d'asthme aussi. Elle a eu quand même des effets médicinaux. Et puis surtout, voilà, elle a une toxicité qui est incroyable. Donc dedans, il y a deux produits. Il y a de l'atropine. Donc ça, c'est une molécule en fait qui est tonicardiaque, donc qui est toxique, mais qui est utilisée en médecine, mais à des très petites doses. Et puis il y a la scopolamine qui a des effets hallucinogènes très puissants où on a cette impression de lévitation. Et du coup, les sorcières, en fait, pour faire leurs onguents, donc elles utilisaient le datura, jusquiam, mandragore. Donc elles faisaient un petit mélange dans leur chaudron avec de la graisse. Et en fait, elles en tartinaient leur balai et elles montaient dessus. Et du coup, donc à cette époque-là, bien sûr, les gens n'avaient pas de culotte. Et du coup, les produits, en fait, ils pénétraient à travers la muqueuse des parties intimes. Et si elles l'avaient mangé par voie orale, la toxicité de l'atropine les aurait tuées. Mais le fait que ça passe par leur peau, l'atropine, elle passe pas bien. Par contre, la scopolamine, qui est hallucinogène, elle passe beaucoup mieux. Et donc, ça, on a surtout les effets hallucinogènes. Donc, en fait, les sorcières ne volaient pas vraiment, mais elles avaient l'impression elles-mêmes de voler. Et on le sait parce qu'il y a des moines qui sont amusés, alors je ne sais plus quand c'est exactement, je crois que c'est vers le 16e, 17e, pour essayer de comprendre comment ça marchait, l'onguent des sorcières. En fait, ils s'en sont tartinés sous les aisselles et sur les parties. Et en fait, après, ils ont dit qu'ils étaient possédés par le diable et qu'il fallait les, qu'il fallait les brûler parce qu'ils avaient péché. Mais bon, voilà, ils avaient eu les mêmes effets que les sorcières.
Voilà. Donc la religion issue des plantes.
Je pense qu'il y a un petit peu des liens, mais après, je ne sais pas la religion catholique, mais il y en a d'autres, oui.
Donc l'hostie, on a des découvertes sur ce qu'il y avait dans l'hostie à la base, non ?
Ben ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'en Amérique du Sud, il y a des cultes syncrétiques. Il y a même une église en France, d'ailleurs, où dans la chapelle, il y a un espèce d'arbre, l'arbre de la connaissance, en fait. C'est un gros champignon, une amanite tu mouches. Voilà.
Ça, c'est une bonne découverte. On n'a pas parlé de toi en dehors des bouquins. Enfin, parce que je me permets, parce que c'est écrit quand même dans ton livre, hein, sinon je n'aurais pas posé la question. Tu es médecin ?
Tout
voir
fait,
un petit
ouais.
peu d'où vient le lien sur les plantes. Et ton mari, tu m'as dit, fait de la chimie des plantes.
Oui, il est enseignant-chercheur à la fac de pharma et donc il est passionné comme moi par la chimie des plantes. Et donc voilà, les plantes médicinales et pareil, les poisons, les plantes hallucinogènes. Voilà.
Ah, il y a un autre sujet dont je voudrais te poser des questions. Mais on va faire une toute petite pause musicale, histoire que tu puisses quand même reprendre ta respiration 2 secondes. Voilà, vous êtes en direct dans Patchworld, sur les ondes de Radio Canu. Et donc notre invitée du jour, Julie Subirana, qui vient d'écrire un livre que j'ai adoré. Donc c'est rare que j'encense à ce point-là quand j'aime quelque chose, mais vraiment je confirme, parce que c'est aussi des sujets qui m'intéressent, les plantes, l'histoire de Lyon. Donc ma question suivante, hein, on parlait aussi des enfants indigos juste avant, vous pourrez écouter l'émission, hein, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. C'était plutôt sur la notion, tu parles aussi dans ton livre, sans dire l'intrigue, d'aristocratie, de consanguinité.
Oui, parce qu'en fait, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui m'a fait écrire ce livre aussi, c'est la thématique autour du bleu. Et donc j'avais lu pas mal de choses sur le sang bleu. Et voilà, pourquoi on parlait de sang bleu à cause de la peau qui était diaphane et qui montrait donc les veines apparentes, qui montrait la pureté en fait. Bon, en fait, ça montre surtout que les gens, ils n'allaient pas au soleil quand ils avaient les moyens de rester chez eux plutôt que de travailler la terre. Mais voilà, ça m'intéressait de parler un peu d'eugénisme en fait, de sélection, de la pureté de la race, etc.
Et donc sur les enfants, dans le livre qui s'appelle Les enfants indigos, je vous le rappelle, qui est aux éditions Les Passionnés de Bouquins, on peut peut-être dire où est-ce que tu fais des dédicaces rapidement, du coup, entre parenthèses, on le redira en fin d'émission aussi.
Oui, donc demain je suis à Cultura Givor, et puis dans une semaine, donc samedi prochain, le matin, je serai à la librairie de mes yeux qui s'appelle Colibri.
Et sinon, on le trouve dans n'importe quelle librairie, ou on le trouve sur ton site, sur le site Guillaume de...
Oui, alors, on le trouve sur le site de la maison d'édition, ça, effectivement. Après, on peut aussi le commander dans n'importe quelle librairie. Et puis, il est présent aussi en rayon dans quelques librairies lyonnaises. La librairie du Tramway, dans le 7e, la librairie des Canus, donc sur le plateau de la Croix-Rousse. L'Esprit Livre, dans le 3e.
Le Père Pénard.
Le Père Pénard aussi, dans le 5e. La Virevolte aussi dans le 5e. Donc voilà, il y a des librairies.
La librairie du Tramway, c'est celle qui est vers Place Guichard.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ah ben, du coup, j'en profite pour dire que le 20 mai, Place Guichard, on a aussi les 40 ans de la radio.
Voilà,
toute la journée. Donc vous pouvez aller prendre un livre et ensuite venir faire la fête Place Guichard avec nous. Le 20 mai.
Exactement.
Ça sera ouvert, c'est un samedi, hein, pas de problème.
Ouais.
Alors, tout à l'heure, tu me le dédicaceras, Julie, hein, je veux bien, parce que
ouais,
c'est collector et super. J'ai vraiment plongé. Pourtant, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai peu de temps de lire, mais j'ai plongé dedans et je n'ai pas arrêté. Hein, et je l'ai lu en une traite. Hein. Ça a été vraiment
c'est bien.
Une belle découverte.
Ben, merci.
Alors là, la première intrigue qu'on trouve, c'est Claire et Marie, où tu décris quand même leur personnalité, elles sont assez différentes. Une est plutôt timide, l'autre est plutôt dégourdie. Enfin, si, tu me dis si je me trompe. Hein,
oui, c'est tout à fait ça. Il y en a une qui est un peu renfermée, qui est pleine d'angoisse, etc. Et l'autre qui est plutôt extravertie, qui est une touche à tout, très ouverte.
Et puis les profils vont quand même un peu évoluer au fur et à mesure.
Exactement.
Elle aussi, on les suit un petit peu dans leur personnalité. Alors, elles partent en week-end pour un petit stage, pour découvrir les plantes en Auvergne, comme ça se développe beaucoup, hein, on est plutôt un retour au bio.
Voilà, il y a beaucoup de centres comme ça qui proposent différentes activités autour des plantes, et souvent qui sont mélangées avec de la méditation, de la danse, enfin, plusieurs trucs qui ont pour but de se rapprocher de la nature, et voilà. Et là, donc, au cours de ce petit week-end-là...
Donc, on imagine bien, on se retrouve dans une jolie petite maison, petite ferme, je ne sais pas, au cœur de l'Auvergne.
Une ferme rénovée en Auvergne.
J'y étais, hein, j'étais avec eux, il faisait beau, il y avait du soleil, on découvrait les plantes, on faisait bronzer. Et puis, alors, il y a des séances de découverte des plantes avec une dame qui a l'air plutôt sage et âgée.
Voilà, qui a une espèce de référente un peu vénérable, mais qui reste assez mystérieuse. Et puis, donc, elles vont donc faire ces stages de découverte. Et puis, au cours du week-end, Claire, donc, qui est mon héroïne, elle sent qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent dans les environs. Il y a une fille qui aurait peut-être disparu, etc. Et donc, finalement, toutes les deux, elles rentrent à Lyon. Enfin, Claire rentre à Lyon et Marie, elle a décidé qu'elle était indépendante et qu'elle avait envie de rester un petit peu plus. Et donc... Claire rentre à Lyon, fait son petit travail classique, et puis quelques jours après, elle se rend compte que son amie, elle n'est jamais rentrée.
Voilà, donc c'est le début de l'intrigue.
Voilà.
Et puis, ce qui m'a intéressée dans cette plante, le datura, donc on trouve un peu partout Voilà, tout le monde va aller s'intoxiquer maintenant. C'est très bien.
J'espère que non. Ceci n'est pas un mode d'emploi pour finir aux urgences, je le précise.
Oui, parce qu'il y en a, tu dis, qui finissent aux urgences.
Oui, mais en fait, c'est une plante qui est quand même toxique. Et du coup, la différence entre sa dose thérapeutique et la dose toxique, elle est très fine. Donc, il y a des gens qui connaissent. Enfin, même en connaissant, je pense qu'on peut se rater parce que selon l'endroit où elle pousse, etc., il n'y a pas les mêmes compositions en toxique dedans. Et donc, voilà.
Donc c'est un peu le profil de l'urgentiste qui est dans ton histoire, je ne sais plus son prénom.
Mathieu.
Ouais, Mathieu qui, lui, se coltine tous les gens qui ont un peu abusé d'excès.
C'est ça, ouais, qui fait des gardes aux urgences la nuit et qui récolte tous les malades et ceux qui sont ivres morts et ceux qui ont trop abusé.
En plus, tu le dépeins comme celui qui a tous les cas les plus gratinés dans les soirées. Donc, parce que tu as déjà vu quelqu'un comme ça qui
se cotine. J'étais un peu maudite quand je travaillais. Enfin, ça m'est arrivé de faire des gardes aux urgences et j'avais pas mal la poisse. En fait, à chaque fois que je faisais une garde, il se passait un truc horrible que je savais pas gérer. Voilà. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a, ils font que des gardes tranquilles où ils dorment toute la nuit et d'autres, c'est la poisse.
Et donc les inspirations, j'allais revenir sur cette idée de petit stage en Auvergne. Donc elles partent de Lyon, elles font leur petit week-end. Et il y a des initiations aux plantes, il y a des massages. Et puis là, ça un peu commence à déraper. Ce qu'on se rend compte, c'est j'ai appris donc grâce à toi que les plantes qui étaient mises en huile quand elles passaient sur la peau rentraient directement, pénétraient dans le sang.
Il y en a qui peuvent. Comme
et qu'il y avait des plantes qui annihilaient la volonté.
Voilà. Donc c'est le datura justement, qui contient donc de la scopolamine et de l'iosiamine aussi, qui sont des drogues hallucinogènes donc qui provoquent ce qu'on appelle une amnésie entérograde. En fait, on oublie au fur et à mesure que les choses se produisent. Et d'ailleurs, cette plante, elle a été utilisée comme drogue du viol dans l'histoire.
C'est là où je voulais en venir, les questions un peu choquantes sur les thématiques qu'on a eues.
C'était tout à fait. Donc en fait, ça fait longtemps que ça existe, mais cette plante, elle est décrite depuis très longtemps, parce que même les premières traces que j'avais trouvées, c'est dans le Kama Sutra. Il y a une partie occulte, en fait, des pratiques sexuelles, donc qui est la septième partie du Kama Sutra. Et en fait, ils décrivent comment on peut asservir ses partenaires sexuels grâce au datura ou à une plante qui lui ressemble énormément, qui contient les mêmes composés. Ils donnent même la recette, qui est assez détaillée, avec de l'huile, je crois qu'il y a du poivre pilé, et puis des graines de datura pilées. Et apparemment, on s'en enduit les parties sexuelles et du coup, ça permet d'asservir sa partenaire. Et c'est drôle parce qu'après, j'ai fait d'autres recherches et j'ai trouvé que dans l'antiquité grecque et romaine, en fait, les prostituées de bas étage, elles droguaient aussi leurs clients par ce biais-là pour pouvoir les dépouiller ou pour réduire leurs exigences et les voler.
C'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur arrosé, finalement.
Oui, exactement. Après, c'est à double tranchant parce que si on s'en enduit les parties, on a aussi les effets. Donc, je ne conseille pas non plus cette pratique. Et après, il y a des gangs.
C'est pas le but de l'émission.
Voilà. Il y a des gangs de bandits parisiens aussi qui s'appelaient les endormeurs, qui passaient dans les transports. Alors, c'était les calèches à l'époque, puisque c'était 1450 et quelques. Et qui pulvérisaient au visage de des gens qui voulaient dépouiller, donc cette espèce de poudre de graines de datura. Et ils faisaient aussi priser du tabac où ils avaient mélangé en fait des graines de datura pilées donc aux voyageurs. Et puis pareil, ils en profitaient pour les dépouiller ou les violer ou autre joyeuseté.
Alors, est-ce qu'il y a des antipoisons ou des choses pour se protéger de ça ?
Pas vraiment, il y en a bien un, mais en fait il est encore plus toxique que... voilà, c'est l'antidote de l'atropine. Enfin, il y a une autre plante en fait qui a les effets inverses. Mais c'est Physostigma venenosum, mais elle est encore plus toxique. Donc en fait, en pratique, on ne l'utilise pas. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on donne, on réhydrate, on maintient la personne pour qu'elle survive en fait, au coma et à l'intoxication. Et puis après, elle s'en remet seule. Voilà.
Bon, les plantes sont nos amis. Hein.
Oui, les plantes sont nos amis, mais ça dépend lesquelles et à quelle dose.
Qui les utilise.
Et qui les utilise et à quel but.
Est-ce qu'on peut dériver un petit peu sur d'autres plantes qui n'ont pas été dans ton livre, mais dont tu auras envie de parler pour leur profil un peu particulier, comme ça, deux, trois exemples?
Alors, il y a celle de la même famille, il y a les autres, là. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la mandragore. Et puis, il y en a une autre qui est assez sympa, que j'aimais beaucoup, c'est la jusquiame. C'est un peu la troisième plante du diable. Donc, elle aussi, c'est une solanacée. Et elle... On dit que c'est une plante qui rendait les gens prophétiques. On pense que la Pythie, l'oracle de Delphes, en fait, en utilisait ou inhalait la fumée, en fait, pour faire ses prédictions. Et son nom latin, c'est Iosiamus niger, et Iosiamos, ça veut dire fève de porc. On pense aussi que dans l'Odyssée d'Ulysse, Circé, la magicienne, donc, qui était sur son île, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Ulysse et ses compagnons qui sont arrivés sur l'île. Et en fait, ils ont été transformés, après avoir bu une boisson, ils ont été transformés en porc. Et on pense que c'était une boisson qui contenait justement de la jusquiame et qui donne des hallucinations à caractère animal. On a l'impression d'avoir une peau de loup ou d'avoir une peau de porc. Et donc Ulysse et ses compagnons, ils ont tout oublié et ils sont restés pendant un an sur cette île avec la magicienne. Parce que du coup, c'est pareil, cette plante, elle contient de la scopolamine qui provoque une amnésie. Donc voilà, il y a des historiens, il y en a qui ont que ça à faire, mais c'est vraiment intéressant, qui sont penchés sur quelle plante ils avaient bien pu prendre pour être intoxiqués à ce point. Et après, donc, il est sauvé, Ulysse, par Hermès, qui lui offre une boisson qui s'appelle le molu. Et le molu, ça serait l'antidote, donc la fève de Calabar, Physostigma venenosum, qui est l'antidote, en fait, mais qui est toxique aussi.
Ce qui m'étonne dans ce que tu viens de dire, c'est qu'une plante pourrait faire le même genre de délire aux gens. Parce qu'on pourrait dire, imaginez que le délire est quelque chose de particulier.
De personnel.
Et là, apparemment, ça crée la même délire, en tous les cas, de notion d'animal, d'animalité.
Tout à fait. Il y en a qui disent qu'effectivement, ça donne cette impression d'avoir une seconde peau. Après, ça peut peut-être s'expliquer par les effets de la plante elle-même, qui donnerait peut-être des picotements au niveau de la peau. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Mais voilà, ça vaudrait le coup d'être...
Bon, bah, c'était ma question suivante. Non, je plaisante. Donc, Julie, on va revenir aux questions quand même. Pour les auditeurs qui ne t'ont pas rencontré, tu es maman ?
Oui, je suis maman d'un petit garçon.
Jean ?
Jean, oui.
Et puis bientôt, un deuxième.
Et un deuxième petit qui n'a pas encore de nom.
Mais c'est pour bientôt, alors.
Mais c'est pour bientôt, oui. D'ici un mois, je pense.
Super. Écoute, on fait une petite pause, voilà. On s'est présenté... Au CD Cure, hein, j'ai mis un peu au hasard mon CD. Voilà, avec ce petit extrait des Cure. Pendant ce temps, je continue à poser plein de questions à Julie qui a des réponses passionnantes, forcément, sur les plantes. On va changer de livre, c'est ton futur livre, là, qui n'est pas encore édité ou il vient de sortir
Il vient de sortir. Enfin, il est sorti il y a quelques semaines, quelques jours.
Donc, Julie Subirana, l'odeur de la peur.
Voilà, Julie était au dernier Quai du Polar. Qui a eu lieu il y a quelques ouais, week-ends, une semaine et demie. Voilà. Et du coup, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, L'odeur de la peur.
Une odeur peut-elle manipuler celui qui la sent? Modifier nos comportements, provoquer l'amour, la répulsion, la douleur, la peur, sans que nous en soyons conscients. Samuel, responsable de la surveillance vidéo dans un grand magasin lyonnais, est un homme sans histoire. Une vie solitaire et monotone, du moins c'est ce qu'il croit. Jusqu'à ce qu'une femme vienne s'immoler sous ses yeux dans une cabine d'essayage après avoir exécuté un étrange rituel à l'aide de parfums. Jusqu'à ce que son monde bien réglé bascule dans le chaos. Pour comprendre, il devra remonter la piste des odeurs et celle de son passé de Lyon à l'Amérique du Sud. Alors Julie, ma première question, je pense que beaucoup vont te la poser, c'est ce rapport à un fameux livre. Sur le parfum.
Le parfum. Que j'ai adoré. Un livre qui était vraiment super, qui m'a marqué. C'est un des premiers que j'ai lu, que mes parents m'avaient fait lire, que j'avais adoré. Alors, je ne voulais pas que ça ressemble trop à ce livre mythique, bien sûr.
Ça ne se passe pas à la même époque.
Non, ça ne se passe pas à la même époque, puisque c'est l'époque moderne dans Lyon. Mais j'avais quand même envie de parler du pouvoir des odeurs. J'avais lu des trucs, en fait, il y a une unité de neurosciences, je crois, à Lyon, qui fait des recherches, en fait, sur le parfum, les odeurs et le lien avec des comportements. En particulier, qui parle de phéromones ou de la question de est-ce qu'il y a des phéromones chez l'homme et est-ce qu'on peut déclencher des comportements. Et donc, il y a beaucoup de... Les gens ne le savent pas parce que c'est un sens très ancien, l'odorat. Et du coup, souvent, on n'est pas habitué en fait à faire attention aux odeurs qui nous entourent. On sent vraiment quand ça sent très mauvais ou très bon. Mais ce sens très ancien, en fait, il n'est pas relié directement à notre cortex. Et c'est sa particularité par rapport à la vision ou à l'audition. C'est-à-dire qu'avant d'avoir l'information qui nous remonte et où on se dit « je sens cette odeur-là », en fait, ce sens-là, il est d'abord relié au système limbique, qui est le système des émotions. Donc, c'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Donc, en fait, on a d'abord l'émotion avant de comprendre que cette émotion, elle est liée à la perception d'une odeur. Et du coup, on peut être aisément manipulable par les odeurs, puisqu'on s'en rend pas compte, ou du moins pas tout de suite. Et en plus, nous, on est très habitués dans nos sociétés à camoufler les odeurs corporelles. Finalement, il y a des trucs de synthèse, des odeurs de synthèse de partout. On en met dans l'eau qui nettoie les rues de la ville pour que ça sente moins mauvais. On en met dans le gaz pour que ça sente bien le gaz. On en parfume certains trucs de fruits et légumes pour que ça sente bon. Tout le monde sait que dans certains supermarchés, ben, ça sent le pain chaud, mais ils fabriquent pas le pain ici, c'est une odeur qui est diffusée. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'en marketing, là par contre, on ne s'y trompe pas. Donc ça fait assez longtemps qu'il y a des recherches là-dessus et sur comment déclencher des comportements d'achat ou des comportements stéréotypés en faisant sentir aux gens une odeur. Et comme le consommateur, il n'est pas du tout habitué à rechercher ça et à y faire attention, il se fait mener par le bout du nez. Voilà, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis je suis tombée sur un autre article. En fait, il y a beaucoup de marques maintenant qui choisissent une odeur, en fait, pour les démarquer. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un marquage olfactif. Enfin, je ne sais plus exactement, mais en gros, il y a beaucoup de marques, de grands magasins qui ont cette odeur qui leur est associée. Et du coup, ça provoque pareil un comportement chez les gens où quand ils sentent l'odeur, ils savent en fait que ça leur fait penser à cette marque ou alors la bonne odeur leur fait penser que cette marque est sympathique. Mais des fois, c'est des marques pas vraiment sympathiques, genre des pétroliers ou des trucs. Voilà. Donc, c'est une sorte de manipulation des comportements.
Qu'est-ce qui a été déclencheur dans l'écriture de ce livre ?
Eh bien, le déclencheur, bon, je suis passionnée par les huiles essentielles aussi, puisque ça tourne toujours autour des plantes. Et puis, j'avais été aux urgences pédiatriques, et ça m'avait beaucoup marqué, en fait. Après, en néonatologie, pour les petits bébés qui n'arrivaient pas à respirer, on diffusait des odeurs de vanille. Et en fait, ça aidait les bébés à respirer. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable. Il y a certaines odeurs qui peuvent même influencer nos comportements, qui ne sont même pas des comportements vitaux, en fait, tels que respirer. Voilà. Et après, j'ai lu un autre article sur la diffusion de l'odeur d'orange dans certains casinos qui augmenterait les actes impulsifs d'achat de 30%. Ce n'est pas 1%, c'est 30%. Alors, c'est au début de la diffusion, mais n'empêche que c'est horrible. Enfin, c'est intéressant pour eux, mais c'est horrible pour nous, quoi. Voilà. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à chercher de ce côté-là. Et du coup, je me suis procuré les bouquins de cette unité de neurosciences de Lyon qui publiait sur les odeurs. Et puis, j'ai cherché un petit peu voilà, le lien entre les odeurs et les comportements. Et puis, à côté de ça, donc, en ce moment, donc, je faisais quelques recherches sur les poisons et tout ça. Et je suis tombée sur, je ne sais pas si vous connaissez les projets MK Ultra et tout ça. C'est les projets de la CIA développés dans les années 50-60 sur le contrôle mental. Et donc, ils utilisaient pour ça plusieurs drogues hallucinogènes ou toxiques. Et ils ont testé donc, sur des populations civiles, sur des prisonniers, etc., pour essayer de modifier les comportements des gens à l'aide de drogues. C'était pour répondre au programme des Russes, bien sûr, qu'ils aient la même chose de leur côté, mais peut-être sur des gens moins consentants. Enfin bon, voilà. Et du coup, dans ces projets-là, MKUltra, il y avait entre autres l'utilisation du LSD ou d'autres drogues comme ça. Et ils ont fait des recherches aussi sur l'odeur de la peur. Est-ce qu'on peut provoquer sur le champ de bataille une fuite des autres combattants en diffusant une odeur qui leur ferait peur? Et du coup, tout ça, ça menait à quelles sont les odeurs qui rendent attirants ou qui repoussent? Qu'est-ce qui peut faire fuir, provoquer des réactions de peur viscérale ou provoquer l'amour? Donc voilà, ça m'a donné envie.
Donc tout ça, c'est dans ton roman, en tous les cas.
Il y a quelques parties qui sont dedans, oui.
L'odeur de la peur qui vient de sortir, donc je vous invite à découvrir ce livre. Moi, je pense que je vais encore me régaler en lisant ton livre. Et j'aurai encore plein de questions à te poser si tu veux bien revenir dans Patchworld l'un de ces jours.
Oui, volontiers.
Bon, on va peut-être commencer à dire un peu, à résumer, où est-ce qu'on vous trouve, Guillaume, les éditions, Julie, pour les dédicaces.
Oui, bah pour Julie en dédicace, donc c'est dès demain samedi à Culture Agivore, de 10h à jusque dans l'après-midi à environ. Et puis ensuite samedi prochain à la librairie Colibris à Mes Yeux, la matinée, donc à peu près de 10h à midi, 10h à midi et demi environ. Les deux livres, donc peut-être rappeler les titres, le premier Les Enfants Indigo, une enquête au cœur du pouvoir des plantes. Et puis le deuxième, donc, qui vient de paraître, comme tu le disais, L'odeur de la peur. Les deux livres, on peut les commander sur Internet, ou les trouver en librairie, ou les commander aussi en librairie. Le premier, donc Les Enfants Indigo, est un petit peu plus diffusé du fait qu'il est plus ancien. Le deuxième est en cours de diffusion et distribution. Voilà pour les informations principales.
Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, pendant qu'on écoutait la musique, mais je te reposerai les questions bien volontiers sur tout ce qui est une notion d'empoisonnement, c'était passionnant. Enfin, vous avez loupé une partie pendant que vous écoutiez les Cure, c'était super intéressant. Tu m'avais parlé de la semaine de la science, qu'il y avait des choses aussi qui
oui,
se profilaient.
Oui, en fait, du coup, mon conjoint, il bosse à la faculté de pharmacie de Lyon, et donc ils ont un droguier. Donc c'est un endroit où il y a plein de drogues végétales et minérales et autres qui sont entreposées. Et donc, pour Quai du Polar, pour la Fête de la Science et quelques autres occasions, on organise des visites, en fait, de ce droguier. Donc, on présente des échantillons, on montre des plantes, et c'est axé essentiellement sur les plantes à poison, l'histoire des empoisonnements, voilà, les poisons d'épreuve, les plantes hallucinogènes, et les empoisonnements dans l'histoire.
Voilà, on peut redire vite fait où et quand, à quelle heure?
Donc en général, c'est pour Quai du Polar, donc là c'est déjà passé cette année, et souvent ça va être pour la Fête de la Science, on le refait aussi, alors je ne sais plus quand c'est exactement.
C'est en septembre, je crois.
Oui, peut-être, okay. Et alors, en général on fait 2 à 3 visites par jour, qui durent à peu près 1 heure. Souvent c'est gratuit et ouvert au public, alors je n'ai pas encore les dates, mais...
Est-ce qu'il y a des sites où on peut aller s'informer aussi sur...
Parfois c'est sur le site de la faculté de Lyon. Voilà, on fait aussi des interventions... en fait, l'ancienne collection de la faculté de médecine, cette fois où il y a des bébés en bocaux et autres joyeusetés, ils font aussi des visites et des conférences, et là, c'est sur les poisons. Donc, ils ont un centre à Rieux-la-Pape où il y a une exposition temporaire en ce moment. Et il y a aussi des conférences sur les embaumements, sur les affaires lyonnaises, etc.
Très bien. Bah alors ça, je prendrai note des adresses exactes. Rantaine, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Et d'autres choses? C'est bon? C'est tout bon. Allez, c'est parti.
C'est tout.
Alors, j'ai beaucoup d'informations à vous donner, c'est pour ça. Je prends une petite marge. Les gens se réveillent tous en même temps, c'est-à-dire au moment du printemps, il se passe plein de choses en même temps. Donc, je vais essayer d'oublier personne, parce que l'autre jour, j'ai pas eu le temps de dire toutes les informations. Notre groupe, La Vendée Tapas, est en concert dans le cadre du tremplin Emergenza le 22 avril. Le samedi, c'est au CCO de Villeurbanne. 10 euros la soirée, 8 groupes. Si vous avez, venez assez nombreux et que vous aimez, votez pour nous. On jouera au Transborder. Bref, achetez vos places, etc. Bon, après, c'est Emergenza. Hein.
And the sun may shine. It doesn't matter when you know it's the last day you're gonna live. Well, I'm gonna tell you.
Oui, j'allais dire, moi aussi je peux faire ma promo, j'allais oublier. Si vous êtes sur Paris le week-end prochain, vendredi 21, je suis au 100, apparemment c'est un lieu sympa que je connais pas encore, rue Charenton dans le 12e, c'est un lieu de culture solidaire. Si je trouve le papier, non, je ne vais pas le trouver. C'est le Festival Licence. Par contre, vous avez toutes les infos sur le site Festival Licence. Donc, au 100 établissement culturel solidaire, 100 rue Charenton, à Paris. Donc, il y a 2 jours de festival, le 21 et le 22 avril. Donc, j'ai une pièce qui est diffusée. On parle de musique acousmatique, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est de la matière sonore, des textures sonores diffusées sur haut-parleur. Et puis, le lendemain, si vous êtes dans la région de Saint-Étienne, rien à voir avec Paris, c'est... le groupe Max Lampin que j'avais reçu, qui sera en concert à Saint-Étienne le samedi 22 à l'Entrepôt, au bar L'Entrepôt. Alors Nicolas Chona nous dit qu'il sera en concert dans le coin. Les prochains, c'est le 11 mai à Bourgoin, à l'Albion, le 21 juin au Hard Rock Café et le 30 juin aux abattoirs de Bourgoin. Il a aussi des dates sur Paris. Stéphanie, qui fait un spectacle de mime clownesque où un mannequin s'anime dans une vitrine et tente de communiquer avec le monde extérieur au théâtre de l'Irepsen, aux 4 rues Paul Péchou à Villeurbanne le 20, 21 et 22 avril à 20h30. J'avais sauté cette information, mais c'est pas grave parce qu'il se passe toujours plein d'événements dans ce lieu. C'est le bar associatif Le Chalala avec le collectif Secret Basement. C'est Léopold qui m'a passé cette information. Ils sont déjà passés, mais si vous allez au bar associatif Le Chalala qui est dans la montée de la Grande Côte, en face de l'Alternative Bar qui est l'ancien Mahodj, la mouche m'agace l'oreille gauche, ou Golshan je crois, vous pourrez trouver donc ce collectif de musiciens. Ils ont aussi un bar associatif qui s'appelle La Seine, qui se trouve sous une église à Villeurbanne. Eric qui s'occupe des scènes découvertes et c'est à l'Atmosphère, c'est un bar qui date depuis plusieurs décennies. Donc l'Atmosphère est un lieu où vous pouvez aller découvrir des groupes, des artistes régionaux ou venir avec votre guitare ou jouer du piano et chanter vos chansons. Voilà, et bien je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Je lui dis merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup.
C'est des livres passionnants Et je me disais juste avant l'émission, comment tu fais pour avoir un pour gérer ton emploi du temps. Je suis assez bluffée pour faire tout ça.
C'est un peu compliqué parfois. Après, d'avoir un enfant en bas âge, ça permet de pas trop dormir. Du coup, on a du temps. Le soir et la nuit.
Vu sous cet angle, vous voyez, on peut tout faire. Guillaume, merci.
Merci
et
à
puis
toi.
Bonjour à Jean-Luc.
Oui, bah avec plaisir.
Voilà. On lui souhaite un bon rétablissement et puis à bientôt. Et vraiment, merci à vous tous. C'est l'heure de Lilith, Martine et les autres qu'on a entendu pendant que je y parlais. Hein.
l'absurdité,
de l'absurdité,
de l'absurdité,
de l'absurdité,
des portraits, un soupçon d'actualité,
une louche de solidarité,
des reportages bien montés.
Bienvenue dans Lilith, Martine et les autres. Aujourd'hui, vendredi 14 avril. Dans une semaine, ce sera le premier tour des élections présidentielles. Mais non, nous n'allons pas vous parler des candidates, des candidats. D'autres médias s'en chargent. Et charger, c'est bien le mot, vu la tartine qu'on nous sert tous les jours au petit-déj. Des couches et des couches de discours, de promesses, de rhétorique. Des discours en costume trois pièces, des discours à cravate, à moustache, à couille. Rarement, il y a de la jupe et du talon qui claquent. Et quand il claque, ce talon, on entend les bottes des soldats. Alors merci, super la